les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Nous sommes en Suisse, au Livre sur les quais, à Morges et surtout en public. Bonjour Morges! Oh là là! C'est de mieux en mieux chaque année. Voici le sommaire de cette deuxième émission de cette 15e saison. C'est la 10e édition de ce salon, le Livre sur les quais. C'est Amélie Nothomb qui est la présidente d'honneur et qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Amélie.
Bonjour Emmanuel.
Oui, applaudir Amélie Nothomb, bien sûr. On vous a entendu cet été parler des chats avec Stéphanie Hocher dans la librairie francophone estivale. Vous publiez un nouveau roman comme à chaque rentrée et cette fois vous revisitez la crucifixion de Jésus. Cette crucifixion, c'est le problème de toute l'humanité en fait.
Mais oui, ça ne concerne pas que les chrétiens. Nous sommes à fond dans la civilisation du sacrifice et du martyre. On le subit tous à divers degrés. La haine du corps, la haine de soi. Et tout ça vient de la crucifixion. Donc, ça me rend malade, tout ça. Du coup, je me suis dit, mais comment Jésus a pu accepter un truc aussi idiot, aussi nuisible?
Vous décryptez ça.
Du coup, je n'ai pas trouvé d'autre manière que de consacrer un roman à cette crucifixion.
Voilà, vous vous appropriez cette crucifixion. Oui. C'est passionnant. Amélie Nothomb surprend et bouscule la rentrée littéraire comme elle ne l'a jamais fait. Lui aussi revient chaque année avec un nouvel ouvrage depuis 2012. Frédéric Pajac s'est lancé dans une fresque qui raconte le monde actuel en évoquant le passé. Lauréat du prix Médicis Essai et du prix Goncourt de la biographie, ses manifestes incertains sont passionnants. Le 8e volet vient de sortir. En cette rentrée scolaire, nous vous parlerons d'un coup de cœur dans le rayon des livres pour la jeunesse. Gilles Paris, créateur de Courgette, qui a connu un gros succès en librairie et au cinéma, publie un livre, une fois encore, très émouvant. Et puis dans un court instant, on vous raconte l'histoire d'Alberto Giacometti en Suisse, avec la célèbre auteure et dramaturge en Cavis Dei.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et on applaudit bien sûr les libraires aussi qui sont en multiplex avec nous, mais également en plateau. Bonjour Laura Sanchez.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Genève dans la librairie du Boulevard. C'est votre première émission de la saison. Décrivez-nous ce qu'il y a autour de nous, tiens. Faites-nous rêver.
Oh ben, le livre sur les quais, c'est toujours et encore le lac juste au bout des doigts, juste à côté de nous.
Oui.
De l'autre côté du lac, les montagnes, un petit peu prises dans les nuages.
Oui, un petit peu. Oui.
Et puis, ben, beaucoup d'auteurs et beaucoup de public. Donc, c'est toujours formidable.
C'est formidable. Vous avez raison de souligner. Merci, Laura, d'être avec nous. En France, c'est le retour de Mathieu Colombe, qui est au chaud, lui, dans sa ville d'Aix-en-Provence. Bonjour, Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Et vous, vous dirigez la librairie Goulard. Bonjour Jérémy Lagnel.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez le Canada. Vous êtes libraire à Rosemère dans la librairie Carcajou. Et enfin en Belgique, c'est Déborah Damblon. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Bruxelles dans la librairie La Licorne.
Oui.
Merci d'être avec nous tous les quatre en liaison avec cette magnifique technique qui nous permet comme ça de parcourir le monde francophone. Bonjour en Cavis Dei.
Bonjour.
Vous faites partie des invités de ce salon, le livre sur les quais. Vous avez publié une biographie d'Alberto Giacometti. Et avec ce livre paru en début d'année, on se décale un peu hein, de la rentrée littéraire pour ouvrir cette émission parce qu'on ne pouvait pas passer à côté, Anka. Vous
Merci.
Êtes né à Bucarest, auteur dramatique d'une quarantaine de pièces de théâtre qui sont jouées dans le monde entier. Vous êtes aussi la biographe de Jean Anouilh, qui était votre ami, d'Orson Welles. Et donc de Giacometti, car comme vous, il a beaucoup vécu ici en Suisse, il est même né là. Et selon vous, on ne peut pas comprendre l'artiste sans comprendre son territoire.
Il y avait, c'est très amusant, parce que je suis une éternelle bourlingueuse, cosmopolite, un peu une baroudeuse rêveuse. Mais dans Giacometti, j'ai trouvé exactement le complément nécessaire de mon cosmopolitisme, c'est le fait de s'ancrer bien solidement dans une terre.
Ouais.
C'est une chose que certains, je pense qu'il y a deux races d'écrivains. C'est ceux qui voyagent et qui font des racines aériennes comme les arbres, et c'est ceux qui s'incarnent profondément dans un terroir. Et j'ai passé 2 mois dans les Grisons, dans le Val Bregaglia de Giacometti, et ça a été un immense plaisir parce que j'ai tout compris. Et je voudrais, j'ai lu à peu près tout ce qui a été écrit sur Giacometti, c'est beaucoup et tout est intéressant.
Ouais.
Mais je trouve que la période suisse n'était pas suffisamment traitée jusqu'ici, sûrement par mes connaissances de la Suisse, parce que la plupart de ceux qui ont écrit sont des Français ou des Italiens.
Alors c'est vrai que c'est un enfant de la nature, Giacometti, confronté sans cesse à un paysage de montagne. Vous l'avez dit, il est né dans le canton des Grisons. Et Giacometti, c'est un homme de contraste. Il a aussi le culte du travail, vous précisez ça dans le livre. Le culte du travail, le sens de l'éthique, des valeurs qui sont chères à la majorité des Suisses.
c'est ce qui est très très beau, c'est qu'Amélie Nothomb a parlé d'une civilisation de sacrifice, de haine de soi dans laquelle nous sommes. C'est tout à fait exact, je le sens de façon épidermique et sensuelle. Et je pense que nous le sentons tous, mais nous allons nous en arranger et nous adapter. Ce qui est formidable avec Giacometti, c'est que lui, il avait ce sens, non pas du martyr, parce qu'il n'était pas croyant, mais il avait ce sens de l'effort du martyr, ouais. Désigné, désiré, afin de faire une œuvre. Je donne un autre exemple. J'ai très bien connu le compositeur de Jacques Brel qui me disait, je lui disais, mais pourquoi il n'a jamais été heureux en amour, cet homme, ce poète merveilleux? Et il m'a dit, il a fait un rempart de sa famille pour ne pas qu'elle gêne son œuvre. Et chez Giacometti, j'ai vu, c'est très
c'est
important
ça aussi,
qu'il soit
ouais.
Exactement.
Et l'inverse aussi, c'est là où il y a le contraste, parce que Giacometti va se réfugier très souvent chez sa mère, ici en Suisse, pour se ressourcer, même lorsqu'il est célèbre. D'ailleurs, il n'a que faire de la célébrité, lui.
Absolument. On dit, en principe, il a vécu environ 60 ans. Les 20 premières, c'était en Suisse, et les 40 autres à Paris. Mais il ne faut pas oublier, et ce que j'ai appris en allant au Valbregalia, qu'au fond, il vivait dans un petit atelier de 2/3, oui, oui. Sur lequel on dit sans arrêt, ah mon Dieu, mais le génie, à quel point il a besoin de peu de choses, et qu'il allait 6 mois par an dans le Valbregalia, où maman l'installait dans le lit conjugal, le même lit où il avait été conçu et où il était né. J'ai la photo, le lit est de 1615.
Ah oui.
Donc vous voyez la complexité là. Donc je pense que quelque part, toute sa vie et ses rapports avec les femmes qui sont compliqués.
Ah oui, très compliqués. Oui.
Passionnant. Quand c'est compliqué, c'est passionnant. C'est douloureux, mais c'est passionnant.
Ça dépend. Hein.
Quand la mère est puissante, oui. Et Dieu sait que la littérature, ça en est fait la voix.
Oui.
Par plein de gens de grande qualité, d'Albert Cohen à Romain Gary,
oui.
Quand la mère est aussi puissante dans la famille, pratiquement c'est une mater familiale ce qu'il a eu.
Il y a Paul Léoto aussi qui a eu des problèmes avec les femmes, on en
exactement.
Parlera avec Frédéric Pajac tout à l'heure, parce ouais. Que lui
tout
aussi.
Tout en étant séducteur, mais en ayant une mère puissante.
Avec beaucoup de prostituées, hein,
je
Paul
vous remercie Léoto. De votre remarque sur le contraste. C'est l'homme qui fait des tableaux en noir et blanc.
Oui.
Et on lui demande, mais pourquoi tu ne fais pas de la couleur? Il dit, je n'y comprends rien. Sur ma palette, je mets les mêmes couleurs que les autres. Et quand je les mets sur la toile, ça devient du noir et blanc. À mon avis, il y a peut-être un peu l'esprit protestant que j'adore, qui au fond est un esprit qui sépare les choses de façon très claire, sans complication. Je dois dire qu'étant très latine, je suis en admiration, je vois les bons côtés de cet esprit contrasté.
Il y a 2 libraires qui ont lu votre livre sur Alberto Giacometti, Anca Visdei, le Canada et la Belgique. On va commencer par le plus difficile, c'est Jérémy Laniel, Anca, il n'aime pas trop les biographies, je vous préviens. Allons-y Jérémy, ouvrez le bal.
Mais justement, je suis tellement pas un lecteur de biographie, mais je devrais, parce que des fois, la vie des hommes là est tout simplement fascinante et elle relève de la fiction. C'est un peu le cas des génies, comme Giacometti pouvait en être. Visdive, je crois, propose ici un portrait franc, honnête, senti, avec un tant soit peu d'intérêt pour le sujet. Je crois vraiment que le lecteur va y trouver son compte.
Bien, donc, m'étonner. Déborah Damblon, pas fan de biographie, je crois, non plus. Sans vouloir.
Ben non, pas non plus, Emmanuel. Oui. Je vais pas vous ressortir mon sempiternel couplet. Est-ce que c'est vraiment indispensable de connaître la oui. Personne pour apprécier l'artiste? Donc, vous le savez depuis longtemps, la somme de détails sur la naissance, la topographie du terrain, tout ça, ça me passe un petit peu à côté.
Mais là.
Mais bon. Madame Visdei, je dois vous dire que quand on a une écriture agréable et imagée comme la vôtre, ben ça fait passer bien des détails. Et puis finalement, eh ben vous m'avez piégé parce que j'ai beau dire que ça m'intéresse pas, ben j'ai quand même vraiment aimé le découvrir, l'homme qui se cache derrière votre artiste.
Bravo,
vraiment.
Anca Visdei, vous avez séduit nos libraires, vous pouvez l'applaudir parce que voilà. Belle performance, comme on dit. Il y a la figure du père qui est essentielle dans la vie et même dans l'œuvre de Giacometti, Anca Visdei. Le père qui est artiste, c'est un peintre fauviste. Il l'emmène un jour à la Biennale de Venise en 1920. Et Alberto est fasciné par Venise. Sa prise de conscience artistique et même son sens esthétique, ça commence là.
Exactement. Et ce qui est très beau, c'est que le peintre, Giovanni Giacometti, qui est le père de Alberto et de Diego, a failli avoir une carrière internationale. Il a été à Munich, il a été à Paris. Puis, en raison de la faillite de ses parents, il a dû rentrer au bercail. Il a failli presque se suicider. Il a fait une immense dépression parce que Dieu sait, autant la Suisse est un pays merveilleux, autant quand vous avez 20 ans comme Giovanni Giacometti, vous avez l'impression de vous priver du monde. Mais ce qui est fabuleux, c'est que justement, à ce moment-là, Giacometti est amené par son papa, qui était responsable du ministère de la Culture, de la Commission fédérale de la Culture.
Alors le grand drame de la vie d'Alberto Anca Visdei, c'est que son père n'aime pas les œuvres surréalistes de son fils. Et ça, c'est compliqué pour lui parce qu'il veut que son père soit fier de lui, mais ça fonctionne pas. Et quand il meurt, son père, en 1933, il est sidéré au sens propre, il est admis dans une clinique.
C'est un être tellement sensible, tellement fin, qu'il n'a jamais pu dire son affection à son père, qui au fond l'avait totalement formé. Le père lui a tout transmis jusqu'au fauvisme, comme vous l'avez souligné, qu'il avait étudié à Paris. C'est pour ça qu'il ne met pas le côté surréaliste, parce qu'il savait très bien que c'est un mouvement qui venait et qui passait, mais c'était au fond le mouvement d'où le fils devenait différent de son père. Si vous voulez, la branche d'arbre est partie. Et moi, j'ai été élevée par un père depuis l'âge de 2 ans, et je sais qu'une des pires choses avec la pudeur des pères, c'est le moment où on se sent ne fût-ce que sur un point supérieur à son père. Mmh. Il y a un moment de honte, de contrition absolue, et ça c'est très difficile. Et ben, ce qu'il a fait, Alberto, et c'est très beau, très sensible, c'est qu'au fond, il n'a pas pu assister à l'enterrement, il était carrément tétanisé dans une clinique à Lyon. En revanche, dès qu'il a refait surface, c'est-à-dire quelques mois après la mort du père, il a fait le monument mortuaire pour le père. Et ensuite, il s'est consacré pendant 2 ans à faire des expositions du travail du père, qui est merveilleux. Et d'ailleurs, le père ne faisait que dessiner sa famille, sa femme et ses enfants. Donc, c'était un retour. On se construit toujours sur les meilleurs d'entre nous et on continue.
Et on va parler de la paternité tout à l'heure avec Gilles Parais. Merci beaucoup, Ancavis Dei. Ancavis Dei, mesdames et messieurs. Alberto Giacometti, à 16 et passion, est paru chez Odile Jacob.
Oui. J'ai le droit, puisqu'on est en Suisse, de lire juste une phrase.
Allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire?
Simplement, comme moi j'étais arrivée avec mon père en Suisse à 19 ans et que j'avais que 2 valises, la dernière phrase du livre dit cette chose suivante. Les Giacometti sont une fleur de montagne, élevée dans le Val Bregaglia, et qui ont enchanté le monde entier de leur parfum unique.
Bravo, de mémoire. Merci, Ancavis Dei. Et cette saison, l'anecdote personnelle racontée par l'un de nos invités est flottante comme une petite surprise au gré du programme. Aujourd'hui, c'est Gilles Parys qui a cette mission. Nous parlerons tout à l'heure d'Inventer les couleurs, livre pour la jeunesse qui fait un peu penser à Ma vie de courgette parfois. Que voulez-vous nous raconter, Gilles ?
Alors, c'est une histoire qui se passe il y a quelques années sur un salon du livre à Fuveau, pas loin d'Aix-en-Provence.
Oui, dans le sud de la France.
Une jeune fille charmante s'avance vers moi, tout sourire, et m'achète un livre. Jusque-là, tout est classique et tout est absolument normal. Et je fais ce que n'importe quel auteur fait. Je relève la tête, je lui demande son prénom. Parce que maintenant, on est toujours assujetti aux dédicaces des prénoms, comme Corinne peut s'écrire avec un Y, ou Elisabeth avec un Z et sans H à la fin.
Oui.
Et je lui demande quel prénom je dois utiliser. La jeune fille me regarde et elle me dit « Celui que vous voulez ». Et je suis totalement désarçonné, parce que je n'ai pas du tout l'habitude qu'on me réponde ça. Et elle se penche vers moi à mon oreille et elle me dit « J'adore que les romanciers m'inventent un prénom
». Et vous avez choisi quel prénom alors ?
Je l'ai appelé Claire.
C'est pas mal.
Voilà.
Merci Gilles Parys. À tout à l'heure Gilles. À suivre Amélie Nothomb, les coups de gueule des libraires et Frédéric Pajac. Avant cela, voici le tout nouveau titre d'Alain Souchon. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
À Lille, sur la Grand Place, par un jeu subtil de glace, j'avais son profil de face. Elle a glissé l'argent sous la tasse. S'est levée, je l'ai perdu. J'aurais dû. C'est presque toi, presque moi. Ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous. C'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi. On a presque poussé la porte, presque passé sous le porche. Et puis dans la cour fleurit le mot qu'elle a dit. Sur sa joue j'ai posé mon index. Elle a glissé sa main sous ma veste. Un peu plus et là, tous les deux, tous les deux. C'est presque toi, presque moi. Ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. Je t'ai presque écrit ce matin, presque pris mon courage à deux mains. Te dire qu'à Lille, sur la grande place, j'avais ton profil de face. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi.
C'est le nouveau titre d'Alain Souchon, extrait de son nouvel album qui sortira le 18 octobre.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Canada,
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Amélie Nothomb est la présidente d'honneur de cette 10e édition de ce livre sur les quais où nous sommes en ce moment, ici en Suisse. Son nouveau roman Soif vient de paraître chez Albin Michel et il nous a étonnés, Amélie. Franchement, on ne s'attendait pas à cela et je vais vous dire honnêtement, ce roman va rester longtemps en moi. Et il est très probable que beaucoup de lecteurs vont avoir cette sensation-là, de garder en eux certaines réflexions qui sont dans ce livre. Jésus, c'est ce que vous racontez, sa vie et son œuvre, j'allais dire, au moment où il va être crucifié. Il porte un regard comme ça sur la vie et sur l'amour qu'on aimerait peut-être entendre dans toutes les églises, dans toutes les religions.
Ça me fait très plaisir ce que vous me dites, parce que c'est pareil pour moi. Je veux dire que ce livre, je le porte depuis très longtemps. C'est pas banal de dire qu'on porte un livre en soi depuis 50 ans, mais c'est la vérité. Ça fait 50 ans que je porte ce livre en moi et que je sais que je le porte en moi. Donc j'ai attendu, pourquoi est-ce que j'ai attendu si longtemps pour l'écrire? Mais parce que je voulais être prête à l'écrire. Écrire la crucifixion du Christ à la première personne du singulier, bon, il faut se sentir prête. Je ne me suis jamais sentie prête pour ça. Avril 2018, je me pose une deuxième fois la question, est-ce que tu te sens prête? Ben non, bien sûr que non, on n'est jamais prête à être crucifié, c'est comme ça. Et tout à coup, je me suis dit, mais tu sais, ma vieille, t'as plus de 50 ans, si tu le fais pas maintenant, après il sera trop tard, t'auras plus la santé pour le faire, tu auras plus les ressources pour le faire. Donc, tu acceptes la crucifixion tout de suite, ou alors c'est jamais.
Donc c'est une forme de crucifixion d'écrire ce livre.
C'est-à-dire que... il fallait.
Prenons
vraiment...
la métaphore.
Ce n'est pas une métaphore. La moitié du livre se passe sur la croix. Et oui. Vraiment, pendant toute cette moitié-là, quand je me levais le matin, je me levais en disant, ça y est, maintenant tu retournes sur la croix. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas dingue au point de croire que je suis Jésus. Mais ce qui est vrai, c'est que je me suis mise dans cette situation pendant tout le temps de l'écriture qui m'a paru... tous les matins, je disais, c'est au-dessus de mes forces. Je ne vais pas pouvoir y retourner. Puis je ne me laissais pas le choix.
Mais vous l'avez écrit quand, ce livre? Parce que je sais que vous en avez d'avance. Celui-là, vous l'avez écrit quand?
Printemps-été 2018.
Ah oui, donc c'est récent.
Oui.
D'accord. Alors, dans votre livre, Jésus a des regrets, des envies et des doutes, comme tout être humain. Il s'est totalement incarné. C'est d'ailleurs, selon lui, la plus grande réussite de son père. Et il dit, je suis comme tout le monde, j'ai peur de mourir. Et vous êtes mis à sa place, vous avez peur comme lui de mourir sur la croix.
C'est-à-dire que la mort en soi ne me fait pas peur, mais mourir crucifié, mais quelle horreur, mourir dans la souffrance, c'est la souffrance qui me fait peur.
Oui.
Ce qui est terrible dans la crucifixion, c'est pas la mort, c'est le supplice. On sait que c'est une mise à mort très lente, extrêmement douloureuse. On meurt par asphyxie, d'une asphyxie abominablement douloureuse. C'est probablement la pire mise à mort qui existe, et on nous présente ça comme un acte d'amour. C'est ça qui est insoutenable. J'ai eu une éducation catholique habituelle, je suis allée au catéchisme, et je n'en pouvais plus d'entendre que Jésus avait fait ça par amour. Je ne voyais aucun amour dans le fait de se faire crucifier.
Bon, on va y revenir. On va tout de suite donner la parole à nos libraires, Amélie Nothomb, parce que j'ai vraiment envie d'avoir leur opinion tout de suite en début d'entretien. La France et la Suisse, pour vous, cette fois, on commence par qui? Un micro peut-être,
la Suisse.
Allons-y, Laura Sanchez.
Eh bien moi j'ai trouvé votre livre
plein d'élégance et d'humour. Se lancer dans une thématique que tout le monde connaît, c'est une belle preuve de votre audace et de votre liberté d'auteur. Mais moi, j'y vois surtout un règlement de compte avec Dieu, qui a balancé son fils dans ses galères d'être humain pour le laisser se faire crucifier au bout du compte.
Mais c'est vrai, il y a un problème énorme de la paternité dans la Bible. Quel père terrifiant! Comment aimer ce père?
Amélie, mais non, non. Non, ça va trop loin. Allons-y avec Mathieu Colombe, qui est à Aix-en-Provence. Quel est votre point de vue, Mathieu? Mathieu, en plus, avec un prénom
pareil.
Moi,
déjà, je vois une volonté de se renouveler avec ce sujet qui est quand même inédit dans votre biographie, dans votre bibliographie, Amélie. Après, je pense que ça ne manquera pas de diviser votre lectorat, ou en tout cas le fera énormément parler. Par contre, ce que je peux dire du roman, c'est qu'on retrouve une verve, une jouissance dans l'écriture ravivée, ce qui fait vraiment plaisir. Et en plus, vos traits d'humour sont très très fins, et j'avoue avoir pris énormément de plaisir à vous lire, de nouveau.
C'est extraordinaire voilà. Que vous preniez plaisir à lire une crucifixion. C'est le comble.
Bon, il y a plein de choses, plein de belles choses, Amélie Nothomb, sur l'amour notamment. Jésus, dans votre livre, dit quelque chose d'essentiel. Vous nous rappelez qu'en amour, quelle que soit la nature de cet amour, on ne choisit pas. Vous écrivez « Les êtres qui ont un ego trop gros ne tombent pas amoureux parce qu'ils ne supportent pas de ne pas choisir. Ils s'éprennent d'une personne qu'ils ont sélectionnée et ce n'est pas de l'amour. »
Mais oui, vous savez très bien, ceux qui choisissent leur amoureuse ou leur amoureux sur CV, hein, ça, qu'est-ce qui va faire bien sur mon CV? Alors, c'est pas de l'amour, ça.
Non. Ouais. Vous dites aussi, l'amour concentre la certitude et le doute. On est sûr d'être aimé autant qu'on en doute, non pas tour à tour, mais en une simultanéité déconcertante.
C'est terrifiant, c'est une aporie, et c'est pour ça que c'est tellement fascinant.
Bon, la soif, parlons de la soif, puisque c'est le titre de ce roman Amélie Nothomb. La soif, là aussi une réflexion très intéressante. Jésus raconte que l'extrême soif est une transe mystique.
Oui, alors, la soif, c'est mon grand sujet, hein, c'est ma spécialité, il faut parler de ce qu'on connaît, et ce que je connais le mieux, c'est sans doute la soif. J'ai toujours eu soif d'à peu près tout, et pour moi, la soif n'est pas une métaphore de l'élan mystique, c'est l'élan mystique. Je conseille à tout le monde de cultiver sa soif. Si vous avez soif, ne vous précipitez pas sur un verre d'eau, attendez vraiment le moment où vous sentez que vous allez crever de soif,
oui,
et buvez même à ce moment-là, et je vous assure, c'est c'est la transe mystique la plus accessible, et voilà, c'est directement vertical, c'est vertigineux.
Vous n'irez jamais ça en période de canicule, s'il vous plaît, parce que sinon on va avoir des problèmes. Non mais c'est vrai, c'est vertigineux, vous dites ça, que ça peut transcender quelqu'un,
oui,
de garder sa soif en lui,
oui,
et de goûter juste un tout petit peu d'eau alors qu'on meurt de soif.
Or, là, je suis canonique, parce que même dans les évangiles, l'antépénultième parole qu'on prête à Jésus sur la croix, c'est « j'ai soif ». Et ça m'a toujours frappée. On ne s'attend pas à ça. On lui prête des phrases qui, d'ailleurs, me mettent très, très mal à l'aise. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Enfin, des phrases qu'on attend dans la bouche d'un grand personnage. Mais ce petit « j'ai soif ». Me paraît mille fois plus fort, mille fois plus bouleversant. Ça, c'est vraiment une parole incarnée. C'est le mysticisme même.
Et la soif mène à l'amour. Car, comme vous le dites, aimer, cela commence toujours par boire avec quelqu'un. Et Jésus confie son amour pour l'apôtre Jean, qui l'écoute par amour, justement. Il l'accompagne, il le soutient, c'est son bras droit, c'est son préféré, Jean.
Ça, c'est aussi dans la version canonique. Alors, j'imagine que Jésus aime particulièrement Jean parce que Jean écoute plus fort. Bon, quand on lit l'évangile selon Saint Jean, on peut se poser des questions. Je pense que Jean était un écrivain. Je comprends d'avoir choisi le Christ comme sujet parce qu'il n'y a pas de plus grand sujet.
Ouais.
Mais je le soupçonne en véritable écrivain d'avoir quand même pas mal déformé le propos. Et puis, il y a quand même
un
chose...
Un peu comme vous, quoi, là.
Je pense que je reviens exactement...
C'est un roman apocryphe, comme on dit, votre livre.
Mais remarquez qu'il y a quand même un truc très dérangeant avec les évangélistes. Ils écrivent tous la crucifixion alors qu'aucun n'y assiste. C'est très
gênant. C'est vrai. Bon, en tout cas, vous créez votre Jésus à vous, hein, Amélie Nothomb. Il y a une chanson qui pourrait être la bande originale de votre livre.
Mais c'est ma grande chanson d'adolescence, c'est Personal Jesus, bien sûr.
De Dépêche Mode, écoutons.
I'm not afraid to
Dépêche Mode avec Personal Jesus. Cette chanson qui finalement est un peu blasphématoire aussi. Et dans ce livre, Amélie Nothomb, cette vie que vous imaginez de Jésus, vous imaginez le contre-pied. Vous imaginez aussi une autre vie qu'il aurait pu mener avec Madeleine. Vous allez vous attirer les foudres des catholiques intégristes.
Alors, vous savez que Kazan Zaki l'avait fait avec La Dernière Tentation, qui est devenu le film de Scorsese,
oui, de Scorsese.
Et La Dernière Tentation du Christ.
Oui. Mais là, fait scandale.
Ce qui avait déjà fait scandale, ce que Kazan Zaki et Scorsese imaginent, c'est que le Christ, en situation de crucifixion, tombe dans une espèce de vape et a un rêve. Il rêve qu'il a choisi une autre vie et qu'il épouse Marie-Madeleine, qu'il a des enfants,
oui,
et qu'il devient un homme parfaitement normal. Ma version est différente. Moi, ce n'est pas un rêve. Mon Jésus est extrêmement lucide. Il se rend compte simplement qu'il a fait une faute monumentale et que la faute, c'est la crucifixion.
Et il imagine surtout que tout le monde va le laisser tranquille parce qu'il va y avoir un déluge et qu'on pourrait peut-être le laisser descendre de la croix. C'est ça que vous racontez.
Il
pourrait prendre le cours d'une vie normale.
Il le rêve, mais il a quand même la lucidité de s'apercevoir que ça ne va pas se passer.
Et il dira à son père, Dieu, que le sens de la vie, c'est de ne pas souffrir. Vous écrivez, sous couleur de donner une leçon d'amour édifiante, tu mets en scène la punition la plus hideuse et la plus lourde de conséquences qui se puisse imaginer. Et Jésus dira même dans votre roman, il y a un vice de forme dans la création.
Ben, écoutez, ce père qui envoie un fils pour sauver l'humanité en le crucifiant, mais au secours! Au secours, quel exemple! Et le pire, c'est que cet exemple a été abondamment suivi.
Oui, c'est ça. Alors c'est ça qui le fait souffrir, Jésus, parce qu'il dit « Aucune souffrance humaine ne fera l'objet d'une aussi colossale glorification. » C'est le paradoxe de l'histoire des religions, ça, finalement, Amélie Nothomb.
Oui, parce que ce n'est pas le fait que du christianisme, c'est le fait des religions du livre, le culte du martyr, le culte du sacrifice, vu comme rédempteur, monde dans lequel nous sommes à fond aujourd'hui. Regardez comme le martyr se porte bien. Donc, il est quand même grand temps de dire que le martyr, ça ne sauve rien. C'est tout le contraire, ça condamne tout le monde.
Je suis responsable du plus grand contresens de l'histoire. Vous y allez, hein?
Mais c'est vrai. Au moins, mon Jésus est lucide. Et en plus, finalement, c'est aussi pour ça qu'il y a certaines paroles que je ne peux pas mettre dans sa bouche. Comme quand l'avant-dernière parole qu'on lui prête, c'est « Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Oui.
Comme s'il allait s'en rendre compte à ce moment-là. Mais c'est carrément, c'est une lapalissade. Si c'est à ce moment-là qu'il se rend compte que Jésus, que son père l'a abandonné, c'est qu'il n'est pas très observateur quand même.
On attend vos courriers et courriels à la librairie francophone. Emmanuel Kérad, allez-y, hein, je prendrai. Je vous transmettrai, Amélie. Bon, allez, Soif est sélectionné pour le prix Goncourt, Amélie Nothomb. La seule fois où vous avez été sur la liste du Goncourt, c'est en 2007, pour Ni d'Ève ni d'Adam. Vous l'attendez, ce prix, vous l'imaginez un jour?
Écoutez, je ne sais pas ce qu'il faut imaginer, mais ça me fait vraiment très plaisir déjà d'être sur la liste.
D'accord. Bon, on croise les doigts?
Oui, mais alors, par contre, si j'ai le Goncourt, il faut bien se dire que les intégristes vont se mêler de cette affaire.
Bon, mais vous reviendrez dans l'émission. On en reparlera, d'accord? Allez, on verra ça. Merci beaucoup, Amélie Nothomb, pour cette fidélité à la librairie francophone. Et vous avez accepté de rester avec nous jusqu'à la fin. Alors, vous pourrez intervenir quand vous voulez. Vous êtes ici chez vous, Amélie. Merci beaucoup. Et Soif est publié chez Albin Michel, j'ai oublié, mais je l'ai déjà dit. Les coups de cœur et les coups de gueule de nos libraires. Et pour changer, on commence avec un coup de cœur au Canada avec le très difficile Jérémy Laniel, qui est tombé, figurez-vous, en pamoison devant un roman qui vient de sortir.
Absolument, ça s'intitule L'annexe de Catherine Mavrikakis, publié chez Heliotrope. On suit une espionne chez Anne Frank, donc à Amsterdam, qui se fait suivre et qui doit se faire extrader à Montréal. Elle se ramasse dans une nouvelle annexe, donc un genre de bâtisse, on ne sait pas trop on est où à Montréal, et elle doit un peu se faire oublier. C'est vraiment un ballet littéraire avec un majordome inquiétant. Chez Catherine Mavrikakis, tout est hautement référencé, hautement littéraire. Ici, tout est littérature, ça vaut absolument le détour.
Eh ben dis donc, Catherine Mavrikakis, aux éditions Heliotrope, on la salue au passage. Très bonne écrivaine, effectivement québécoise. Le titre, c'est L'annexe. Merci à vous. Un coup de gueule signé Déborah Damblon. Les rôles sont inversés aujourd'hui.
Ça arrive, Emmanuel, ça arrive. Bah oui, il y a certains livres qui passent, mais tout à fait inaperçus. Un exemple, vous voulez, par exemple, Trois incendies de Viviane Mochler. Il était sorti chez Stock, c'est un livre formidable, bouleversant, touchant et rien. Mais pas un mot, pas un article, tout à fait inaperçu. Pourquoi ? Ben, à mon avis, parce qu'il est sorti en fin de saison et que tout le monde regardait déjà ailleurs. Alors moi, j'ai envie de vous proposer un petit contrat. Si de temps en temps, on se retournait et on regardait derrière nous. Parce qu'après tout, ben, un livre, il est nouveau quand on le découvre. Hein.
C'est vrai. Mathieu Colombe en France, vous aussi un coup de gueule. Plus acide encore, Mathieu.
Un petit peu. Ben, en fait, on va parler de la feel-good littérature. Rien que de le dire, ça me fait mal à la bouche. Alors, qu'est-ce que c'est la feel-good littérature ? En général, ce sont des romans qui sont très très mal écrits, qui ont la profondeur d'une tasse à café, et qui doivent, c'est marqué dessus, vous faire vous sentir bien en les lisant.
Alors, en anglais,
moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que des bouquins qui polluent. Pardon ?
En plus, c'est dit en anglais, donc c'est magnifique.
En plus, c'est dit en anglais, oui, ça sent un peu le service marketing. Et ce que j'ai envie de dire aussi, marketing c'est que bah, aussi. Des romans qui polluent l'esprit, j'en ai déjà plein. Le rayon développement personnel, c'est pas la peine de rejeter en littérature.
Bon, c'est dit. Merci Mathieu. On termine avec le coup de cœur de Laura Sanchez ici à Morges, au bord du lac Léman.
Oui, alors Emmanuel, je vous propose de rallonger un peu votre séjour en Suisse romande et de partir en quête de poésie. Avec vous, vous aurez Le poème et le territoire, paru chez Noir sur Blanc, qui vous propose des balades aux côtés de Byron, Victor Hugo, Rilke et tant d'autres dans les lieux qui les ont inspirés. Bien sûr, il y a aussi nombre de poètes romans. Donc voilà, c'est le livre de l'été et bonne nouvelle, l'été n'est pas tout à fait fini.
C'est vrai, il faut rappeler que c'est jusqu'au 21 septembre quand même, hein, 20 septembre. Le poème et le territoire, promenade littéraire en Suisse romande aux éditions Noir sur Blanc, une maison d'édition qui parle forcément à Frédéric Pajac. Et justement, ça tombe bien, l'auteur et artiste Frédéric Pajac est avec nous pour son 8e manifeste incertain, une série qui a déjà obtenu le prix Médicis Essai et le prix Goncourt de la biographie. Et ce sera après Fuente, c'est notre révélation canado-haïtienne. Écoutez, merci à vous d'être sur la librairie francophone à travers le monde.
Samedi soir, ce week-end, bien relax, pas le bon drink, brûler tout, si partner, ça qu'a fait, côté nié, depuis l'aime, oui, venant dans le club là. Gon bébé ka gade, gon bébé ka chekem. Depuis l'aime, oui, venant dans le club là. Gon bébé ka matem, gon bébé ka gade. Alors beauté, voulez-vous danser avec moi ce soir, bébé? Voulez-vous danser avec moi ce soir, bébé? J'ai pas encore trouvé ma mamza. Ta fia a coulé qu'un coup de l'eau. Des poils fait les pour mettre sel. Ils disent la nuit est encore jeune. Mais moi j'ai pas encore trouvé ma mamza. Ta fia a coulé qu'un coup de l'eau. Des poils fait les pour mettre sel. Alors, voulez-vous danser avec moi ce soir, bébé? Voulez-vous danser avec moi ce soir, bébé? Si tu veux, on peut danser rara si tu veux. Yon tira bodai si tu veux. Si tu veux, bébé, si tu veux. On peut danser compas si tu veux. On peut danser rara si tu veux. Yon tira bodai si tu veux. Si tu veux, bébé, si tu veux.
L'artiste Fuente, canado-haïtien, avec Voulez-vous danser ?
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici, Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et bonjour Frédéric Pajac.
Bonjour.
Le Manifeste incertain, volume 8, vient de sortir aux éditions Noir sur Blanc. Vous avez obtenu le prix Médicis Essai en 2014 pour le volume 3 et le prix Goncourt de la biographie pour le volume 7. C'est un vaste projet littéraire que vous menez depuis 2012. Une fresque qui raconte comme ça le monde passé, le monde d'aujourd'hui, à travers votre expérience et à travers des figures intellectuelles qui ont, selon vous, marqué le monde. Comment vous les choisissez, ces figures intellectuelles ?
En fait, c'est souvent des auteurs que j'ai lus très jeunes, sans rien y comprendre. Je prends l'exemple de Walter Benjamin, qui au fond est exprimé dans les trois premiers volumes. Il n'est pas le seul, puisqu'il y a Ezra Pound en même temps, il y a d'autres auteurs. Et puis, quand je l'ai lu à 19 ans, 20 ans, comme tout le monde, j'ai rien compris. Et donc, c'est très intéressant de relire 40 ans plus tard, et d'essayer non seulement de comprendre, mais de faire comprendre,
et de les insérer,
de dire ce qu'on a compris.
C'est ça. Alors vous le faites avec Paul Léoto, cette fois, avec Ernest Renan, dans ce nouveau volume. Ce ne sont pas des figures intellectuelles si évidentes que ça. Léoto, écrivain solitaire, autodidacte, sarcastique et cruel avec ses amis. Ce que vous écrivez, maître de 300 chats, 140 chiens, un personnage très particulier.
Oui, plus une guenon.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Paul Léoto, on est un peu en train de l'oublier. C'est l'auteur essentiellement d'un journal littéraire qui est un des plus grands dans le genre, en fait. D'abord, il traverse pratiquement tout le siècle.
Et toute son époque.
Et il est de la fin du 19e siècle. Ouais. Et on le lit pas parce qu'il est plus édité.
Alors Léoto, qui sera peint par Matisse. Et il faut savoir qu'il n'aime pas la peinture de Matisse. Il hait la peinture moderne, mais il se laisse quand même faire, non sans le dénigrer et le moquer d'ailleurs dans son fameux journal.
Matisse doit faire un portrait pour un livre de luxe, avec des extraits des textes de Léoto. Et puis, il fait des séances de pause très longues, et il y a un malentendu profond. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé, c'est de montrer ce malentendu, c'est-à-dire Léoto qui déteste les dessins de Matisse, et puis Matisse qui aime beaucoup Léoto. Et en fait, après, Matisse lui offre le dessin,
un des dessins.
Et puis, au fond, ce que je raconte, je ne vais pas vous dire ici, mais c'est comment Léoto va s'en débarrasser.
Oui, exactement. Vous avez lu Paul Léoto, Amélie Nothomb ?
J'adore Léoto, le schtroumpf grognon de la littérature.
C'est vrai, c'est un peu ça. Bon, on va laisser la place à nos libraires, Frédéric Pajac, qui vous adore en général. Et après, on parle de vous, presque, parce qu'il y a une histoire autobiographique, mais on ne sait pas trop, vous allez nous expliquer, parce que c'est une histoire terrible, hallucinante. On va voir du côté des libraires, donc avec la Suisse. Tiens, allons-y, Laura Sanchez, ici au bord du lac Léman.
Frédéric Pajac, vous êtes un sorcier. Ces associations, parfois décalées, parfois fulgurantes, d'illustrations et de textes, sont à mon sens magiques. Donc cette fois, j'ai été très touchée par les parties de votre récit qui se basent sur vos souvenirs ou ce qu'on pense être vos souvenirs.
Ouais, c'est pas si évident.
Voilà, c'est pas si évident. Vous parvenez à traduire l'épaisseur et la complexité de notre condition humaine, sa beauté aussi. Je me réjouis infiniment de la suite.
Le Canada, Jérémy Laniel, fan, j'en suis sûr.
Oui, absolument. Je crois qu'on peut le dire clairement. L'œuvre littéraire de Frédéric Pajac, qui l'édifie depuis maintenant quelques années avec ses manifestes incertains, c'est de l'ordre des inclassables, des chefs-d'œuvre. Avec ce tome 8, on ne dévie pas du tout de cette veine à la fois intime et universelle qui fait de ses livres des incontournables. Le très sublime, le texte, peut-être est-ce le contraire, je ne saurais dire, mais c'est une grande rencontre littéraire, encore une fois.
Avec des dessins magnifiques, quasiment à chaque page, il faut le souligner, parce qu'il y a environ 300 pages, et à chaque fois, il y a des dessins que vous réalisez, Frédéric Pajac. Vous êtes un grand artiste, Frédéric.
Je ne sais pas, c'est pas
si
moi
je
de le dire.
Non, mais vraiment. Ouais. Alors, il y a cette histoire personnelle. On va clarifier ça tout de suite, parce que j'ai fait un pari, et apparemment, j'ai perdu. Vous vous mariez à l'âge de 30 ans. En tout cas, c'est ce que vous écrivez dans le premier chapitre du Manifeste Incertain 8. Vous avez un enfant, né 15 jours avant la cérémonie de mariage. Votre beau-père, promoteur immobilier, est très autoritaire. Il vous déteste. Il prononce même un discours contre vous lors de la cérémonie de mariage. Et surtout, il a une passion pour la magie noire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Frédéric ?
Vous savez, on a beaucoup attaqué le père. La question du meurtre du père est vraiment dans notre inconscient et de notre conscience aussi. Par contre, le meurtre du beau-père, on a peu abordé ces questions. Et c'est vrai que j'entends par beau-père, parce qu'il y a deux beaux-pères. Il y a évidemment Si on a perdu son père, on a un beau-père. Oui. Si notre mère se remarie, mais il y a aussi le père de l'épouse ou le père du mari. Hein.
On est perdu là, Frédéric.
Oui.
Il y a trop de.
Non, bah, disons le père.
Il y a le père d'Amélie Nothomb, il y a le vôtre.
Le père de l'épouse. Et au fond, ce père, il est à la fois soulagé que sa fille ait trouvé une âme sœur. Et en même temps, il aime pas trop ce garçon qui lui a volé sa fille. Donc, c'est une relation très particulière qui, à mon avis, n'a pas été tellement explorée.
Mais est-ce que c'est votre histoire? Parce que vous l'écrivez vraiment à la première personne. Alors, on a l'impression que c'est votre vie.
J'ai eu un beau-père qui n'est pas exactement celui-ci. Mais je me suis inspiré, pas seulement de mon beau-père, mais de plusieurs beaux-pères. Et c'est pour moi un archétype, le beau-père. Et surtout, ce que j'avais envie de montrer, c'est un beau-père qui est un vrai dominateur, un mâle dominant, et qui est riche, qui a du pouvoir, et qui, en l'occurrence, a du pouvoir en Suisse romande, où on est aujourd'hui. Et ce pouvoir, il le dédouble en pratiquant la magie noire.
Et vous l'avez vécu, cette magie noire-là, ou pas?
Alors oui, ça, je l'ai vécu.
Ah oui?
Oui.
Avec une femme qui essaye de vous étrangler en pleine nuit?
Oui.
Ah oui,
oui. Ça, c'est pas de la magie noire.
Non. Amélie Nothomb. Vous l'avez pratiqué, Amélie?
Bien sûr.
Bien sûr, logique. Bon, la Suisse, alors vous parlez de la Suisse, Frédéric Pajac. Vous dites qu'il y a certaines villes comme Lausanne qui sont moches, vous le dites carrément.
Devenues moches.
Devenues moches. Oui. Vous dites que c'est une ville cocon, une ville qui ne produit rien. Il faut savoir que Lausanne est à 10 minutes de Morges, juste à côté.
Mais ce n'est pas un jugement de valeur.
Ah non ?
Non, en fait, ce n'est pas une ville industrielle, si vous voulez. Ce n'est pas comme d'autres villes en Suisse romande, comme la Chaux-de-Fonds ou des villes en Suisse alémanique, qui sont vraiment des villes industrielles. C'est une ville du tertiaire, ici. Donc, ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Mais c'est vrai que ça donne... moi, j'y ai vécu, donc c'est une ville que je connais bien. On a un sentiment d'être très protégé, peut-être plus qu'ailleurs, peut-être plus qu'à Genève, peut-être plus que dans d'autres villes.
C'est vrai. Et vous racontez ces villes, justement, qui sont détruites et reconstruites. Et finalement, vous expliquez qu'on produit de nouvelles villes sur les ruines de l'ancienne. Et ça donne quelque chose d'autre, et parfois de très moche.
Ben, le problème, c'est qu'il n'y a pas de plan d'ensemble. Lausanne a été était une des plus belles villes du monde, où il y avait des vignes données sur le lac, etc. Il y avait tous les immeubles étaient étagés, si vous voulez. Aujourd'hui, ils sont plus étagés, ils sont entassés. Et ils sont entassés n'importe comment, c'est-à-dire que chacun, c'est une ville de paysans enrichis, évidemment, donc des gens qui ont voulu faire ici un immeuble, après il y a l'administration, il y a l'hôpital, et tout s'est mis un peu n'importe comment. C'est pas la seule ville comme ça, évidemment, c'est quand même un phénomène moderne très général, mais... Puisque dans ce livre, je parle de cette ville et d'un personnage qui est donc le beau-père et qui est promoteur immobilier.
Et qui en est de la ville, oui. C'est ça. Bon, le manifeste incertain, c'est ça, le manifeste incertain de Frédéric Pajac. Un mélange de pseudo-autobiographie, de voyage, vous nous emmenez en Chine aussi, de biographie de personnages importants, et puis de personnages comme Ernest Renan, on n'a pas le temps d'en parler, mais qui est né en Bretagne et qui se destine à devenir prêtre, mais qui vers l'âge de 20 ans va renoncer, parce qu'il réalise que sa foi ne correspond pas à ce qu'on lui inculque. Il faut absolument que vous lisiez Ernest Renan, Amélie Nothomb.
Ah bah la vie de Jésus, vous pensez bien que je suis déjà passé par là quand même.
Bah voilà. Merci beaucoup Frédéric Pajac, mesdames et messieurs. Merci Frédéric. Le manifeste à certains, volume 8, est paru aux éditions Noir sur Blanc.
Je vous présente Icare.
La librairie francophone.
Mais je crois qu'il préfère qu'on l'appelle Courgette. Sa maman l'appelait comme ça et ça semble important pour lui.
Emmanuel Quérade.
Des fois, je rêve que je suis grand et que je suis encore avec ma mère. Elle parle toujours toute seule, en buvant de la bière. Et moi, j'en bois beaucoup aussi. Je suis bien content de savoir que ça n'arrivera jamais.
Gilles Paris, Cette vie de courgette, c'est une sacrée histoire. En janvier 2002, vous publiez un livre, Autobiographie d'une courgette. L'ouvrage est lu dans les écoles. Il y a même des extraits qui figurent dans des manuels scolaires. Et 10 ans plus tard, une éditrice des éditions Flammarion décide de rééditer ce livre. Un réalisateur suisse, le Valaisan Claude Barras, l'adapte au cinéma. Et cette histoire a fait le tour du monde.
Un vrai conte de fées, en fait. C'est une histoire incroyable. Parce qu'en 2007, en fait, le livre est déjà un gros succès en librairie. Il y a eu une adaptation de la télévision aussi, produite par Pascal Brugnot, un très joli film de Lucas Bellevaux. Moi, je suis heureux, quoi. Je suis un auteur comblé, complètement. Et je suis loin d'imaginer ce qui va se passer dans les 10 années à venir.
Oui, nommé pour l'Oscar du meilleur film d'animation aux USA.
De César.
De César en France.
Oui. Un des récompenses partout dans le monde.
Coproduit par la RTS. C'est la Suisse qui a révélé votre œuvre.
Ah, totalement, c'est Claude Barras. Hein. Donc, Claude faisait, c'est son premier long métrage. Il faisait des courts métrages avant. Et en fait, c'est son associé qui lui a fait lire le livre. Comme je le dis souvent, c'est un lecteur avant tout. Donc, il a projeté quelque chose de sa propre histoire, de quelque chose de son entourage proche. Et il a été particulièrement séduit par l'histoire du livre. Il a voulu en faire un film.
La vie d'Icare, surnommé Courgette, bouleverse le public. Ce petit orphelin de père qui vit avec sa maman alcoolique. C'est très triste, Gilles Paris. Et il y a des similitudes avec ce nouveau livre, Inventer les couleurs. Avec cet Hippolyte qui vit avec son père. Sa mère les a quittés pour aller vivre en Thaïlande avec le père du meilleur ami d'Hippolyte. Encore une histoire de père, ça. Alors, pour surmonter ce drame familial, il fait des dessins pleins de couleurs.
Oui, parce qu'en fait, son père travaille en usine et le dépose à l'école extrêmement tôt le matin, bien avant tous les autres enfants. Et donc, faut bien l'occuper, ce petit gamin. Et donc, on lui donne du papier et des crayons de couleur. Et voilà, tout commence là. Il fait des dessins. Et surtout, il réinvente les couleurs. Le soleil, il est pas jaune, il est violet. La mer, elle est verte, et ainsi de suite. Il réinvente les couleurs. Il se réapproprie les couleurs différemment. Et il vit dans un monde qui est un monde de couleurs, un monde merveilleux. Avec le papa qui travaille à l'usine.
Et qui boit des bières, comme la maman de courgette.
Oui, mais il en boit moins. Et puis surtout... Quand il rentre le soir, il y a de l'amour, il y a un amour fort entre le père et le fils, ce qui n'était pas le cas entre la mère et le courgette. Et surtout, c'est l'enfant qui fait grandir l'adulte dans cette histoire. C'est-à-dire que c'est vraiment, il lui prépare ses repas, l'enfant prépare les repas de son père, il s'occupe du réveil, il s'occupe de plein de choses que son père devrait faire à l'inverse. Mais c'est l'enfant qui le fait et l'enfant est heureux de faire ça en fait.
C'est vrai, il écrit « Son souffle dans mon cou sent fort la bière et la cigarette. Et tant pis si ça sent pas le lilas, c'est mon papa et je l'aime comme il est. Exactement. D'ailleurs, je me suis habitué à l'odeur de la bière. Et quand il me manque trop, j'ouvre une canette juste pour sentir papa. »
Exactement. Ça l'aide, c'est formidable. Ça pourrait être du champagne, hein, Amélie.
On ne peut pas s'empêcher de penser quand même à tous ces enfants qui viennent de faire leur rentrée scolaire et qui vivent parfois, chez eux le soir, une vie familiale compliquée.
Oui.
Ou pire, une grande solitude, qui sont parfois maltraités par leurs parents, qui sont parfois tout seuls le soir. Elle était comment votre enfance, Gilles Paris ?
Moi, elle était à l'inverse de tout ça. Elle était plutôt joyeuse. En fait, j'avais un père architecte, une maman au foyer... un grand appartement, on faisait du patin à roulettes dans les couloirs. Donc, non, tout allait bien. Donc
vous fantasmez le drame aujourd'hui ou...
Je me suis beaucoup intéressé. Je fais beaucoup de rencontres avec les écoles toute l'année. Je rencontre beaucoup d'enfants. Je discute beaucoup avec eux. Je les fais parler d'eux-mêmes, de leur vie, de leur histoire pour écrire Autobiographie d'une courgette. J'ai travaillé pendant 2 ans avec une maison d'accueil. Donc, j'ai vraiment essayé de comprendre comment ça fonctionnait de l'intérieur. Je voulais être crédible en parlant de cette enfance-là qui n'était pas la mienne. Je voulais vraiment rentrer dans quelque chose qui fasse une sorte d'éveil aux autres et qui soit juste surtout.
On va laisser la parole à nos libraires, Gilles Paris. Il y en a 2 aussi qui ont lu votre livre jeunesse, la Belgique et la France. Et on va commencer avec la douce Déborah Damblon en Belgique qui est notre spécialiste de littérature jeunesse. C'est à vous, Déborah.
Merci Emmanuel, parce que un livre inclassable comme ça, ben waouh, c'est tout ce que j'ai aimé. Il est beau dehors, il est beau dedans, il y a une vraie histoire, il y a des mots qui restent. Oh ben rien que d'y penser, là j'ai des frissons partout. Et puis il a aussi tout ce qu'il faut pour réunir les publics. C'est un de ces vrais livres passerelles, vous savez, ceux qui permettent de communiquer, d'échanger, d'offrir, de recevoir. Et d'ailleurs, vous savez quoi ? Quand j'ai pris mon exemplaire, quand je l'ai ouvert pour le relire, eh ben il y a un trèfle à 4 feuilles qui en est tombé.
Non mais ça c'est dans vos rêves, Déborah.
C'est vrai.
C'est vrai. Mais d'où sort ce trèfle
c'est vrai,
à 4 feuilles ?
Je vous le montrerai, Emmanuel.
Bon, allez, on vous croit. Rêvons un peu. Mathieu Colombe, avez-vous rêvé avec Déborah ?
Oh oui, un tout petit peu. Mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir qu'avec du talent, une histoire somme toute assez simple, on arrive à faire passer un message d'espoir très très fort, même si les sujets abordés peuvent paraître tristes ou sordides. Parce qu'en fait, ici, il est question de quoi ? C'est la dure réalité de la vie et pas celle des classes moyennes. Mais après, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'amour dans ce roman et des tout petits bonheurs à prendre lorsqu'ils arrivent dans la vie. Je trouve que c'est un très joli livre et que je pense que les enfants de 10 ans devraient se jeter dessus tout de suite.
Et les adultes aussi. Gilles Paris, c'est compliqué aussi pour cet homme d'être un bon père. Avec ce qu'il a vécu, forcément, il y a des pères pitoyables, des pères formidables, des pères magnifiques, présents à chaque instant. Lui, il est un peu entre les deux.
Oui, je me suis toujours intéressé à ça. Et à travers tous mes romans, le père a une présence, soit une absence totale, soit une présence quasi obsessive de vouloir aimer son enfant et j'ai toujours inversé les choses. Moi, j'ai eu des rapports très très durs avec mon père et je trouvais qu'en tant que romancier, c'est vrai qu'à travers mes histoires, j'avais plutôt tendance à choisir l'inverse, c'est-à-dire à magnifier le père au fond finalement dans les histoires, ouais, et non pas l'inverse, parce que je trouvais que c'était une manière de vivre une enfance ou une vie qui n'avait pas été la mienne.
Amélie Nothomb, le père aussi est présent dans votre œuvre.
Très présent, particulièrement dans un livre sur Jésus.
Oui, non mais on va pas revenir sur Jésus, Amélie. Non mais c'est vrai, ça vous parle ce que dit Gilles Paris.
Ça me parle énormément. Tout acte de création, et nous sommes des créateurs, reproduit l'acte, ouais, des parents. Donc on essaie de comprendre ce que nos pères et nos mères ont voulu faire.
Et il dira à son fils, c'est toi mon petit qui a raison, il faut inventer les couleurs là où elles n'existent pas. Pour terminer,
oui, parce qu'il n'y a pas de défaitisme au fond, ouais, finalement. Voilà, il faut toujours l'espoir, le lendemain, les jours meilleurs, ça arrive de toute façon.
Qu'est-ce que c'est une vie colorée pour vous, Gilles ?
Une vie colorée, c'est une vie dans laquelle on met de la couleur, c'est-à-dire une vie dans laquelle on met du rêve. La vie sans rêve, ça serait juste la vie. Voilà, et si dans sa fiction, on peut aussi en mettre, je trouve que c'est très important. Voilà.
Voilà, Gilles Paris, mesdames et messieurs, inventez les couleurs. Merci Gilles. C'est chez Gallimard Jeunesse, un petit livre très émouvant, très coloré. Donc les dessins signés Aline Zalco sont très beaux. Et vous participez ici à Morges à une exposition de photographie sur l'enfance avec le photographe Didier Gaillard-Holweg.
Absolument.
Merci beaucoup Gilles. Merci Amélie Nothomb.
Merci Emmanuel.
À très bientôt Frédéric Pajac.
Merci.
Vous êtes bien installé là. Au revoir Ankavis Dei. Merci beaucoup.
À bientôt.
Et avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone, voici la chanteuse Suzanne.
Ça fait longtemps que c'est la routine avec ton célibat. Tu voudrais le plaquer pour une jolie fille plutôt sympa. Ton pote marié t'envie, lui, depuis 100 nuits. La passion est partie, reste la bague au doigt. Il irait jusqu'au bout du monde pour chercher ce qu'il a. Il veut jeter son job alors que toi t'en as même pas. Insatisfait à vie, est-ce une maladie? Un virus à guérir qui ne se guérit pas. Alors il fume, des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses veines. Alors il fume, des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses peines. Je me souviens déjà Minot, c'était un enfant roi. Maintenant c'est un type aigri qui ne sait pas faire de choix. Insatisfait à vie, c'est une maladie. Un virus à guérir qui ne se guérit pas. Et il veut plus et toujours plus, une seule chose suffit pas. S'il peut toucher la lune, il la jettera quand il l'aura. Puis l'aura est partie, elle et les petits. Qu'est-ce qu'il aimait sa vie quand ils étaient là. Alors il fume, des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses veines. Alors il fume, des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses peines.
C'était Suzanne, l'insatisfait, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. Merci beaucoup, public de Morges. Merci infiniment d'être revenu cette année encore. À la réalisation, Céline Hila et Gilles Ozaman avec Jérôme Nussbaum. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Teucher en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguay au Canada. La semaine prochaine, Yvan Jablonka, un reportage sur le nouveau musée consacré à Louis de Funès en France, la Belge Myriam Leroy et le retour de notre nouvelle séquence, la librairie verte. Passez un bon week-end, une belle semaine. À bientôt, salut, au revoir.